Avec vous continuer notre thème que nous avons entamé la semaine dernière, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Nous allons lire plusieurs textes, mais le premier se trouve en Deutéronome chapitre 6, les versets 4 au verset 9. Deutéronome chapitre 6, verset 4 au verset 9. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu. L'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main. Elles seront comme un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Magnifique ce texte. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le verset 5 particulièrement, où il est écrit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et si vous prenez dans certaines traductions hébreu, ils disent avec toutes tes ressources, avec toutes tes ressources. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, le verset 37, Jésus reprendra ces paroles. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention particulièrement. Jésus dira, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous ce thème, ne vous laisserez pas distraire, veillez sur vos pensées. Jésus n'a pas voulu modifier ou à quelque part détourner la parole pour dire autre chose. Non, il a voulu nous amener là véritablement où nous avons besoin de travailler encore dans notre vie, pas seulement dire Seigneur je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, mais où sont tes pensées ? Très souvent, nos pensées se laissent amener à droite et à gauche. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le Seigneur. Mais parfois, nos pensées se laissent distraire. En ce moment même, certainement parmi nous, il y en a dont les pensées combattent. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui aimerait vous amener à repenser à autre chose. Peut-être les problèmes que vous avez, peut-être les difficultés que vous vivez, peut-être ce que vous avez oublié de faire avant de venir. Voire même qu'est-ce que vous allez manger en ressortant. Mais le texte nous invite, frères et sœurs, à dire, Seigneur, aide-nous à garder nos pensées en toi. La pensée de l'homme sans Dieu. J'aimerais bien qu'on puisse examiner, comprendre de quoi Jésus veut véritablement, frères et sœurs, nous parler. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 19. Éphésiens 4, versets 17 à 19, il nous écrit « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont les pensées obscurcies. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. » Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Tout se passe déjà au niveau de nos pensées et il est question des pensées obscurcies, des pensées embrouillées, des pensées qui se sont laissées rendre esclaves du péché, esclaves de la pensée de ce monde. Et c'est ce qui se produit dans le cœur de l'homme sans Dieu. C'est une réalité. Et je crois que si nous réfléchissons bien à ce qui était notre vie sans Dieu, nous sommes conscients que nous étions ainsi, avec une pensée obscurcie, amenés non pas à faire le bien, mais à faire le mal. Le psaume 94, verset 11, dira « L'Éternel connaît les pensées des humains, elles sont vaines. » Alors j'ai commencé à fouiller un peu ce mot « vain ». C'est quelque chose qu'on n'utilise pas très souvent, n'est-ce pas ? C'est un mot qui est un peu désuet, un peu ancien. Mais dans l'Ancien Testament, il est utilisé dans trois sens bien différents. La première, vain, c'est l'Ecclésiaste qui en parle et qui dit « tout est vanité ». C'est comme une vapeur, quelque chose qui est futile, quelque chose qui disparaît. Une deuxième sens de ce mot, c'est corrompu, mauvais, indécent. Une troisième chose, c'est quelque chose que l'on jette, qui ne vaut rien. C'est quelque chose de néant. Et dans le Nouveau Testament, on retrouve trois points où ce mot est utilisé. Le premier, c'est la vie sans Christ qui est vaine. Éphésiens 4, 17, hein, nous avons lu tout à l'heure, ne devait plus marcher comme les païens qui marchaient selon la vanité de leur intelligence. Si nous voulons marcher avec le Seigneur, il faut que cette vanité, cette vapeur ne soit plus présente dans notre vie. La vie sans Christ, elle est vaine. Elle ne laisse rien pour l'avenir. La vie sans Christ est quelque chose qui en réalité se consume, disparaît. Qu'est-ce que ce sera l'éternité ? La souffrance éternelle. Rien de plus, rien de mieux. Deuxième sens, la fausse piété. On le lira dans ce texte de Matthieu, chapitre 6, versets 7 et 8. « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas. » Oh là là. Est-ce que nous sommes, nous, capables de multiplier les paroles ? Est-ce que nous avons la capacité de mesurer nos paroles ? Vous savez, mieux une parole, même un seul mot, plein de sens, que de grands discours qui ne veulent rien dire. Je dirais que quand quelqu'un parle beaucoup, on a le sentiment qu'il aime bien s'entendre. Les autres, ils sont fatigués de l'écouter, mais lui, il aime bien s'entendre, lui ou elle. Hein. Ça soit clair. Mais les questions de la piété des pharisiens, ils multiplient les paroles, c'est quelque chose de corrompu. Une piété corrompue. Que Dieu nous garde, frères et sœurs, d'avoir une piété corrompue, vaine. Et le troisième sens, c'est le service du chrétien, satisfait de lui-même, qui peut devenir là aussi vain. C'est quelque chose qui ne sert à rien, qui est jeté. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 3. 2 Corinthiens 6, 1 à 3. « Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il a dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre service ne soit pas un objet de blâme ou un objet vain. » Comment servons-nous le Seigneur ? Est-ce que nous servons le Seigneur de toutes nos pensées ? Ou est-ce que nous calculons les choses avant ? Si je fais ceci, il va se produire cela. Si je m'engage dans cette direction, ça va me coûter ceci. Alors certes, la Bible elle nous dit de nous asseoir et de calculer avant de bâtir. C'est juste. Mais la Bible dit tout ce que ta main trouve à faire, tu ne sais pas ce qui réussira. À force de vouloir calculer et de vouloir tout calculer, surtout pour savoir ce qu'on va y gagner, on perd tout. On passe à côté de ce que Dieu voudrait nous faire expérimenter. Aime Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Est-ce que mes pensées sont vraiment ancrées en Jésus-Christ pour dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, transforme-moi, donne-moi la pensée qui doit être la mienne, la pensée qui doit être la tienne en moi. Alors j'aimerais parler aussi de la pensée de l'homme en Christ. Parce que si la pensée de l'homme sans Dieu, c'est des pensées vaines, voyons bien ce qui devrait être nos pensées. Ça nous permet, vous savez, de faire un peu une analyse, mettre une image à côté de l'autre et chacun dans son cœur dire, Seigneur, qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce que je n'ai pas encore apté dans ma vie ? Qu'est-ce que je n'ai pas encore mis en place dans mon cœur, dans mon âme, pour que je puisse avoir la pensée qui devrait être celle qui anime mon cœur et mes décisions. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Il dira, ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en venant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Avoir la pensée de Christ en nous. On pourrait traduire cela en disant « Ayez en vous la pensée que l'on a quand on est en Jésus-Christ ». Est-ce que nous avons la pensée de Christ en nous ? Ce n'est pas de savoir que Christ existe. C'est de penser comme Christ pense. C'est autre chose. C'est de voir aux autres comme Christ les voit. Nous, quand nous voyons quelqu'un, on fait très vite une analyse et on juge et on met dans des cases. C'est vrai ou pas ? Regardez un défilé de mode. J'aime, j'aime pas, trop court, trop long, trop coloré, trop lourd à porter. Et je parle de ça pour ne pas parler des personnes. Trop gros, trop petit, une voix trop fluette, une voix trop grave, trop de cheveux, pas assez. Non ? On a cette manière de juger et dire « Ah, lui, je le mets dans les 40-45 ans. » Et l'autre, je le mets, lui, je le mets dans... Moi, j'avais un collègue, quand il disait son âge, les gens, ils étaient étonnés. Il faisait jeune. Il faisait jeune. Et quand il disait qu'il avait 57 ans, il disait « Ah, oh, c'est pas possible, toi, t'as pas 57 ans. Allez, 40, t'as tout cassé. Tu fais jeune. » En réalité, c'est quoi faire jeune ? On a tendance, frères et sœurs, par nos propres pensées, à accréditer ou à enlever du crédit à tout le monde. Quand vous parlez à quelqu'un au téléphone, vous ne l'avez jamais vu. Est-ce que vous n'essayez pas de vous imaginer la personne qui est de l'autre côté de votre combiné ou de votre iPhone ? Et le jour où vous le rencontrez, vous vous dites... Ah, je ne le voyais pas du tout comme ça. Un jour, je devais aller prêcher dans une église et ils avaient mis, on aura le pasteur Insinga. Et quand je suis arrivé, quelqu'un à l'accueil était là, tout près. J'ai dit, écoutez, moi j'arrive tranquillement. J'ai dit, où est-ce que est votre pasteur ? Ah, il est là devant, mais il est en train d'attendre le pasteur Insinga. Vous le connaissez ? Oui, je le connais un peu. Et il dit, vous pouvez me l'indiquer ? Je dis, ben c'est moi. Mais non, c'est un pasteur africain. Avec un nom Insinga, certainement il est africain. Je lui dis, désolé de vous décevoir, mais non, je ne suis pas africain. Ah, et bien nous, on s'était tous fait une idée, on attendait un pasteur africain. Je dis, voilà. Hein ? Et ce n'est pas une seule fois que ça m'est arrivé, c'est arrivé à quelques reprises. Mais comme quoi on peut se faire une idée et se dire, c'est comme ça, et pas autrement. Et si nos pensées nous jouaient des tours, et si nos pensées nous écartaient de la pensée de Dieu, et si à cause de nos pensées, on passait à côté de ce que Dieu attend véritablement de notre part. On connaît ce texte qui dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Hein, on en a entendu des messages sur ce texte, mais quand est-ce qu'on les mettra en route, ces choses ? Quand est-ce que finalement on comprendra que ce n'est pas nos pensées qui doivent nous diriger, ni dans nos décisions, et encore moins dans notre vie de tous les jours ? Il est question d'avoir la pensée de Christ, qui s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. Quand est-ce que finalement je prendrai la décision, moi, de me dépouiller pour servir Christ, me dépouiller de mes convictions, me dépouiller de mes projets personnels, me dépouiller de mes attentes. Aujourd'hui, certains y rentrent dans le ministère ou y rentrent dans un service pour s'épanouir eux-mêmes. C'est pour une réussite personnelle. C'est pour dire « je suis ceci, je fais cela ». Ça n'existe pas. Quand on vous demande de vous présenter, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites « monsieur un tel » ou « madame un tel, je fais ça ». Mais ce qui vous identifie, ce n'est pas ce que vous faites, c'est qui vous êtes. Et l'important pour nous de savoir, c'est qui nous sommes en Jésus-Christ. Parce que le faire doit découler de l'être. Et ce n'est pas l'être qui fera de nous ce que nous sommes. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais je crois que trop longtemps, on s'est laissé amener dans un mode de fonctionnement où on fait pour montrer qu'on est. Non, c'est parce que je suis que le Seigneur me demande de faire. Et là où je manque, là où je ne sais pas, là où je n'ai pas encore reçu, mais le Seigneur me donnera ce qui me manque. Parce qu'en tous les cas, le Seigneur ne vous mettra pas à l'aise. Excusez-moi de vous dire ça. Ne vous attendez pas que Dieu vous demande ce qui est facile à faire pour vous avec vos propres capacités. Il vous demandera ce qui fera de vous des hommes et des femmes qui sortent de leur zone de confort et qui accepteront de dépendre de Dieu en tout et pour tout. Voulez-vous servir Dieu ? Grand moment de solitude. Servir Dieu, ce n'est pas que prêcher. Prêcher, c'est une lourde responsabilité. Et servir Dieu, le service de l'Église, est de différentes manières. Et tous sont importants, l'un autant que les autres. Je voudrais vous dire que faire le ménage, c'est important. Servir dans les clubs bibliques, c'est très important. Vous ne savez pas combien d'enfants sont sortis des écoles bibliques en ayant reçu quelque chose qui leur a donné envie dans l'avenir de servir Dieu. Et si Dieu voulait se servir de vous pour être un exemple pour les enfants ? Ah, mais c'est la garderie. Tout le monde ne sait pas garder les enfants. En tous les cas, tout le monde ne sait pas donner envie aux enfants de revenir. Moi, j'ai vu parfois dans des églises des gens qui faisaient fuir les enfants. Ah, je vous assure. On a eu le cas dans une église, il y avait 3 enfants et quand on leur disait c'était le moment d'aller aux écoles du dimanche, ils tremblaient. Non, maman, je ne veux pas y aller. Et je les comprends. Même moi, je n'avais pas envie d'y aller. Pourquoi ? Parce que ceux qui s'occupaient avaient perdu la pensée de Christ. Ils pensaient que c'était juste question de garder un enfant, l'occuper, lui mettre un biscuit dans la bouche pour ne pas l'entendre parler ou pleurer, et après le redonner aux parents en disant « pour aujourd'hui, c'est passé ». Alors que nous avons l'occasion, en toute chose, de servir Dieu et de laisser une empreinte dans le cœur de la personne. Amen. Alors, quel qu'il soit le service que Dieu nous demande de faire, faisons-le en ayant la pensée qui était en Christ. Acceptez de nous humilier pour obéir. Il dit le texte après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Verset 7, la deuxième partie, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur la croix. Est-ce que nous sommes conscients que nous ne sommes que des hommes ? La croix n'est pas une fin en soi, c'est le commencement de tout. Pour certains, la croix est un symbole de fin. C'est terminé. Mais passer par la croix, c'est le début de toute chose. On ne peut pas parler de conversion sans passer par la croix. On ne peut pas parler de pardon sans passer par l'œuvre de la croix. On ne peut pas parler de guérison, on ne peut pas parler de relèvement sans passer par la croix. Passer à la croix, c'est un besoin. Oui, pasteur, vous ne comprenez pas. Je suis seul. À la croix, il y a de place que pour une personne. Et c'est ce, dans ce moment-là, où en effet on se sent peut-être même accusé injustement et tout ce qu'on veut, c'est là que le Seigneur vient nous parler. Et c'est là que nous pouvons recevoir la grâce au même titre que le brigand qui était lui aussi à la croix, reconnaissant qu'il y était à cause de ses erreurs. Mais on peut être à la croix et ne rien reconnaître. Hein. Si c'est toi, fais-nous fuir. Fais-nous passer à autre chose. Fais-nous partir. Est-ce que c'est la pensée de Christ ? Alors il est question pour nous de mettre Jésus au centre de notre existence. Il est question pour nous de jamais oublier que Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre. Et vous savez, nous parfois on aimerait pouvoir parler du Seigneur et qu'il y ait quelque chose qui se produit dans les cœurs. Imaginez. Vous vous trouvez dans un endroit et vous commencez à parler de Jésus. Et à un moment, vous fermez vos yeux et tout le monde se met à genoux, commence à pleurer et donne son cœur au Seigneur. Qui voudrait vivre ça? Mais ce n'est pas par nos propres moyens. Il faut avant tout que la pensée de Christ soit dans notre cœur. Et c'est Christ qui va produire cela parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et nous, on s'attache à l'image de la réussite. Oh là là, Seigneur, j'ai pu te ramener. Vous savez, parfois, on pourrait être étonné le fait d'amener une âme au Seigneur. Une âme à Christ. Ah, mais Seigneur, tu as des évangélistes à ramener des milliers d'âmes. Très bien, gloire à Dieu pour ça. Moi, je suis le premier à être heureux. Et on pourrait se dire, mais une âme. J'ai pu témoigner à une seule personne dans ma vie. Mais qu'est-ce que cette personne est devenue après par la suite? Si c'est elle, la personne que Dieu a choisie après pour qu'il prêche à des milliers de personnes, est-ce que tu ne vas pas toi aussi être au bénéfice de ce que Dieu est en train de faire par lui? Non? Alors il est question pour nous de ne pas limiter la puissance de Dieu, de ne pas négliger la puissance de Dieu, mais de favoriser l'action de Dieu dans notre vie, dans notre cœur, en ayant la pensée de Jésus-Christ. Et vous savez, pour que Christ se serve de nous, il faut qu'il y ait moins de nous en nous. Parce que plus il y a de nous en nous, moyen de Christ, il est à l'étroit. C'est comme si on l'avait mis dans un studio, voire même dans un cagibi. Hein ? Et nous, on prend la grande chambre. Je me rappelle quand on a déménagé une fois, une des fois qu'on a déménagé, quand on est arrivé sur place, les enfants tout de suite, moi je prends cette pièce, moi je prends celle autre. J'ai dit, votre mère et votre père, ils vont dormir où? Dans le garage? J'ai dit, non, ça va être différent. Vous allez partager votre chambre. Ah non, mais tu te rends compte, c'est pas possible. Et votre petit frère, puisqu'il est petit, il aura l'autre. Alors, la chambre était tellement petite, et comme les deux, ils n'arrêtaient pas de se prendre la tête, un jour, ils se sont retrouvés, un, dans le lit de l'autre. En pleine nuit, ils ont changé de place sans savoir comment, pourquoi. Et le matin, il me dit, papa, c'est chelou. Il nous faut plus de place. Mets le petit avec ma sœur. Moi, je suis le plus grand. Et la sœur qui vient après, papa, moi, je suis la seule fille. Mets le petit avec mon frère. Frères et sœurs, on devrait accepter nous-mêmes de prendre la plus petite place et laisser Dieu nous changer de fonction. Et il le fera en fonction du fait qu'on aura laissé plus de place à lui, parce que le but, c'est que lui, il ait de la place. Combien de place êtes-vous prêt à donner au Seigneur ? Allô ? C'est une réponse personnelle. Hein ? Attendez pas que les autres répondent pour vous. Comme pour dire, on va voir s'il y a un piège derrière. Comme ça, s'ils ont mal répondu, moi je viens avec la bonne réponse. Combien de places sommes-nous prêts à laisser au Seigneur ? Une grande place ? suffit pas. Toute la place. Mais vous savez ce que ça coûte, toute la place, ma sœur? Ça veut dire que tout ce qui ne va pas dans notre vie, va falloir remettre en ordre. Parce que tout ce qui ne va pas dans notre vie, ça fait du désordre. Et Dieu n'habite pas dans le désordre. Si notre vie n'est pas en règle avec Christ, on ne peut pas s'attendre que Christ vienne habiter, faire une cohabitation, une colocation. Ah non, non. Et encore moins une colocation entre Dieu et Satan. Vivre un peu avec le Seigneur le dimanche et le reste de la semaine un peu dans le péché. Discothèque le samedi soir, le dimanche matin, alléluia Seigneur, je t'aime. Ah, croyez-moi, ça existe. Plus qu'on peut l'imaginer. Et que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à avoir la pensée, une pensée qui soit différente. Alors j'aimerais terminer. Il est question pour nous de dire, Seigneur, aide-moi à avoir la pensée qui était en Christ. Seigneur, affermis nos pensées en Christ. 1 Pierre chapitre 1, verset 13 à 16. 1 Pierre 1, 13 à 16, il dit, c'est pourquoi affermissez votre pensée. Soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Affermissez vos pensées, devenez saints dans toute votre conduite. Seigneur, affermis mes pensées. Oui, deviens saint dans toutes tes conduites. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il faut peu de choses pour abîmer tout le reste. Un petit ver dans une pomme, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez acheter des fruits, si vous voyez que le fruit est abîmé, vous le prenez? Pourquoi? Vous ne faites pas grâce au fruit. Et si en plus il y a un tout petit peu de vitamines ajoutées, hein? Pourquoi vous ne prenez pas le fruit qui est abîmé? Dites-moi, c'est quoi le souci? Parce qu'on se dit, je vais payer le plein pot pour quelque chose qui ne correspond pas à ce que est mon attente. Et pourquoi vous pensez que le Seigneur devrait nous confier quelque chose pour lequel on n'est pas dans l'état où lui, il s'attend de nous? On a laissé une petite pensée, une petite graine dans notre cœur qui fait que, frères et sœurs, nous ne sommes pas aptes, nous ne sommes pas prêts. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le devenir. Mais en tous les cas, dans l'état des choses, Dieu ne pourra pas se servir de nous. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse avait 40 ans la première fois. Moïse, dans son cœur, il veut libérer le peuple. Mais il agit selon ce qu'il avait appris. Et il va régler ça en tuant une personne, en cachant, en essayant de maquiller les choses. Ça n'a pas marché, il a fallu qu'il s'échappe d'Égypte et qu'il passe 40 ans pour oublier l'Égypte. 40 ans pour apprendre l'Égypte. 40 ans pour oublier l'Égypte, et c'est à 80 ans que finalement Dieu l'appelle. Ah, ben je suis trop vieux. Combien se considèrent trop vieux? Levez la main. Très bien, j'ai une église toute jeune. Donc à partir de là, il n'y a plus besoin de dire, ah, mais vous savez, frère, je suis trop âgé, je suis à la retraite. Ah non, t'es jeune. 80 ans, lui, il était jeune, il a servi encore 40 ans, donc il y a de quoi faire. Amen. Mais il est question pour nous de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a encore dans mes pensées qui m'empêchent véritablement de te servir? Ayez en vous la pensée de Christ. Affermissez votre pensée pour que nous soyons plus plus, pardon, des enfants désobéissants qui vivaient conformément aux désirs que nous avions autrefois dans notre ignorance. Autrefois. Seigneur, je te donne tout, mais pas ça. Seigneur, change tout dans ma vie. Oui, prends tout, Seigneur, mais tu me laisses un petit bout. Hein? Seigneur, on fait comme ça, 50-50. C'est pas mal déjà, 50-50. Hein? Je te donne le dimanche matin, Seigneur, je prends le reste de la semaine. Non? C'est pas ce qu'on fait? Quand on a une réunion, on fait quoi? Excusez-moi, je vais... C'est le repas du dimanche. Combien de fois on est tenté de dire « Ah, j'y vais pas ». Mais normalement, on ne devrait pas. Parce que ben, on appartient à Christ. Où est Christ? Ben, là où Christ est, moi je dois être aussi. Alors ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas partout, en tout lieu. Mais il nous donne des lieux, des moments de rendez-vous. Et je crois qu'il est important pour nous de dire « Seigneur, c'est toi ma priorité. J'ai besoin de toi. » Ce n'est pas Christ qui a besoin de nous. Hein. Allô? Ouais. Et tant qu'on n'a pas compris qu'on doit abandonner notre manière ancienne de vivre, où on fait les choses parce que ça nous donne envie, parce que ça nous plaît, ou parce qu'on n'a pas d'autre chose à faire, et on transforme Dieu en hobby. Je vais à l'église le dimanche matin, c'est mon hobby. Il y en a qui vont à la pêche, moi je vais à l'église. Dieu nous garde. Gardons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements en toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais au lieu de regarder à la pensée des autres, commençons par notre propre pensée. Est-ce que ma pensée, est-ce qu'elle est rendue captive à l'obéissance de Christ? Christ me dit, et moi je fais. Je posais la question ce matin au groupe de louanges, ça vous est arrivé d'avoir quelqu'un qui avait un poste de responsabilité mais qui n'était pas compétent? C'est terrible d'avoir à obéir à quelqu'un qui n'est pas compétent, non? Qu'est-ce que vous en pensez directement? Allez, soyez... Il n'est pas à sa place. Ah, si j'étais chef. Quelqu'un dira si j'étais président. Moi, je dis chacun son poste. Hein? Je préfère être au mien qu'être celui des autres. Non? Est-ce que mes pensées sont captives à l'obéissance de Christ? Ça veut dire, est-ce que mes pensées sont soumises à la pensée de Christ? Parfois, on peut bien penser. On peut être comme Pierre. Qui dites-vous que je suis? Ah, tu es le Fils de Dieu. Ah, Seigneur. Pierre, wow, quelle super pensée. Et tout de suite après, Pierre, il va en sortir une qui n'est pas du tout une bonne pensée. Et la parole de Jésus va être directe. Hein. Éloigne-toi. Wow. Alors imaginez quelqu'un qui vous dise « Éloigne-toi de moi, Satan ». Quel amour fraternel. Mais c'est qu'à quelque part, Satan a trouvé un endroit, un moment, une porte, une issue, pour commencer à changer vos pensées, nos pensées, parce qu'on a tous les mêmes combats, n'est-ce pas? Alors Seigneur, je désire, ça doit être notre prière personnelle, Seigneur, rends mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et après, il est question d'entretenir notre vie et nos pensées en Christ. Romains 12, versets 1 et 2, dernière référence de ce matin. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde, présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au monde présent. Il y a des effets de mode. Et il y a des effets de mode qui rentrent même dans les églises. Le pantalon pas de def. Le pantalon serré. Le pantalon long. Court. Je parle du pantalon, mais on peut parler aussi de la jupe. Hein. Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Que je suis digne. Alors, je suis déjà en train de travailler à la prochaine session de message. Le mot digne. Ah, je peux vous dire que ça décoiffe. Seigneur, est-ce que je suis digne pour venir dans ta maison ce matin ? Est-ce que mes pensées, Seigneur, est-ce qu'elles sont bonnes, elles sont pures ? Seigneur, si ce n'est pas le cas, change mes pensées, Seigneur. Purifie mes pensées, Seigneur. Que je n'ai pas une pensée mauvaise envers mon frère, ma sœur, parce que ce n'est pas maintenant au moment de la Sainte-Cène qu'il faut le faire. Hein. Si nous avons eu de telles pensées, excusez-moi, avant la Sainte-Cène, on devrait avoir l'honnêteté, le courage et l'humilité d'aller voir la personne et dire « Je te demande pardon, j'ai pensé mal de toi. » Parce que c'est trop facile de ranger ça dans une case dans notre tête et de passer au chapitre d'après. Mais c'est quand on s'humilie qu'on apprend la leçon et je peux vous dire, on n'y revient plus. Hein. On se dit, ah non, cette pensée-là, c'est hors de question. Ça m'a coûté déjà une fois de devoir aller m'humilier, de dire, pardon, j'ai mal pensé de toi. J'ai mal agi envers toi. Je t'ai donné une réponse que tu ne devais pas recevoir. J'ai mal fait. Et vous savez, c'est ce qui nous apprend, frères et sœurs, à bien agir. Parce que certes, c'est bien et c'est facile, excusez-moi de dire cela, de dire au Seigneur, j'ai mal agi. Seigneur, je te demande pardon. Oui, tu as blessé le Seigneur, mais tu as blessé aussi ton frère ou ta sœur. Est-ce que tu ne penses pas que tu as le devoir d'aller réparer ? Seigneur, toi, tu es bon, long à la colère, riche en bonté. Amen. Je prends la Sainte-Cène, non ? Si tu sais que ton frère a quelque chose dans ton cœur, dans son cœur, contre toi, va le voir. Et si tu as, toi, quelque chose dans ton cœur, va le voir. Dans les deux cas, il faut bouger. Sans tarder, sans laisser, sans considérer qu'on a le droit de prendre du pain et du vin. Vous savez, la Bible, elle nous dit, certains se sont approchés indignement. C'est pour cela que... Alors, je ne tombe pas dans le légalisme. Hein. Par contre, la Bible dit certaines choses et je ne fais que me dire, si la Bible le dit, je le crois. Je les ai vus de mes yeux, je ne vais pas vous les raconter, mais ce que Dieu dit, Dieu fait. Et je crois qu'il est important pour nous de dire, Seigneur, transforme, Seigneur, renouvelle mes pensées, renouvelle mon intelligence, afin que je puisse discerner quelle est la volonté qui est la tienne, ce qui est bon, agréable et parfait. Qui voudrait avoir des pensées bonnes, agréables et parfaites ? Levez la main, n'ayez pas peur. OK. Qui pense qu'encore ce n'est pas le cas ? Je suis dans la même casserole que vous. Hein. Vous savez, quand le Seigneur nous donne un message, c'est nous les premiers qu'on le prend pour nous. Et je me dis, Seigneur, j'ai besoin que tu renouvelles ma pensée. Et Seigneur, je ne veux pas laisser la pensée du monde m'envahir. Il y aura certainement des moments où je vais devoir prendre position. Ce n'est pas facile de prendre position. Ce n'est pas facile de prendre position déjà dans un couple. Non ? Ce n'est pas facile de prendre position en famille. Peut-être qu'autour de nous, nos familles nous disent des choses, mais moi, si je veux rester attaché à ce que Dieu me dit, je ne peux pas être d'accord forcément avec mon frère, ma sœur, mon père, ma mère. Qui aimera son père, sa mère plus que moi n'est pas digne. Waouh ! Pardon, Seigneur. Donc, Seigneur, quelle est ta pensée ? Peut-être qu'on va être amené à devoir prendre des décisions et à se définir vis-à-vis de la société et du travail dans lequel nous nous trouvons. Je vais plus loin. Peut-être qu'un jour, on sera amené aussi à se définir par rapport à l'ensemble du monde évangélique. Parce que ce n'est pas l'étiquette qui sauve. Hein. Et quelle va être ma décision ? Est-ce que je vais faire ce que Dieu me dit ou ce que les hommes voudront ? Peut-être que ce sera encore pire. Les lois qui voudraient m'empêcher de louer mon Dieu, de l'adorer, de le servir comme il me le demande, et qui joueront à me mettre un peu de compromis. Vous savez, vous connaissez l'histoire, vous l'avez lue, hein, de Moïse qui va voir Pharaon et qui lui dit, il faut que le peuple aille adorer. Oui, oui, mais vous y allez que les hommes, les femmes, les enfants restent là. Vous savez, il y a toujours la manière de l'ennemi d'essayer de nous tenir par quelque chose. Et ce n'était pas comme ça que Dieu voulait. Tous. Mais il faudra prendre position dans nos pensées. Il faudra prendre position et dire non, ces pensées du monde ne peuvent pas avoir lieu dans ma tête. Je ne peux pas laisser la pensée du monde s'introduire dans mon cœur. Je ne peux pas laisser cette pensée mondaine, charnelle, s'infiltrer dans ma manière de vivre ma foi avec Christ parce qu'elle ne correspond pas à ce que la parole de Dieu me dit. Peut-être nos choix demain nous imposeront, frères et sœurs, de prendre des décisions radicales qui nous feront d'un côté humain mal, mais qui se rendent nécessaires. Parce que si on ne le fait pas, c'est à notre risque et péril. Quand on a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut faire rapidement? Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a une semaine, on a fait le travail de nettoyage à l'extérieur. Je me suis mis des épines dans les mains. Et il y en avait une qui m'embêtait. Alors, dès que j'ai pu, je suis allé l'enlever avec une aiguille. J'ai fait le travail. Et une fois que je l'ai enlevé, ça allait bien. Mais si je l'avais laissé, si on laisse quelque chose qui ne doit pas être dans notre cœur, dans notre vie, qu'est-ce qui se produit? Inflammation? Infection? Quoi encore? Ça peut produire même des maladies, ça peut amener même à des choses terribles, catastrophiques. Dernièrement, j'ai rencontré un monsieur, il était en train de travailler, il s'est enfilé un bout de bois dans la main. Il pensait que ce n'était pas trop grave, juste qu'un petit bout de bois était resté dans sa main. Au point que le jour d'après, quand il s'est levé, la main elle était le double. Et quand il est arrivé à l'hôpital, ils ont dit, monsieur, on va essayer de sauver votre main. Pardon ? Oui, on va essayer de sauver votre main. Frères et sœurs, peut-être on n'est pas conscient de ce qui se produit en ce moment et de la technique de l'ennemi d'essayer d'infiltrer nos pensées pour nous amener loin de la pensée de Christ. Et ce matin, il n'est pas question juste de faire une piqûre de rappel. C'est question de dire, Seigneur, viens nous vacciner de la pensée du monde. Viens nous libérer de la pensée du monde. Seigneur, donne-nous la pensée de Christ. Et ce qui est en moi, Seigneur, ce que j'ai pu peut-être concevoir jusque-là et qui n'est pas de ta volonté, fais-le partir, Seigneur. Rends mes pensées captives en Jésus-Christ. Seigneur, rends-moi obéissant et fais, Seigneur, affermis ma pensée pour que je sois saint comme toi, tu es saint. On va fermer nos yeux, on va incliner nos têtes. Seigneur, ce n'est pas la multitude des mots qui doit convaincre, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui doit nous convaincre. Ce n'est pas nos pensées, Seigneur, qui doivent prendre le dessus, mais c'est la tienne, Seigneur, qui doit régner dans notre cœur et dans notre vie. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, ce que nous avons partagé ce matin, en te priant, Seigneur, de continuer à travailler notre cœur. Que nous puissions, Seigneur, être mis devant ta parole comme devant un miroir, et que nous puissions réaliser, Seigneur, tout ce qui n'est pas en ordre, ce qui n'est pas conforme, ce qui n'est pas bon, Seigneur. Seigneur, garde-nous des pensées pseudo-spirituelles, pseudo-chrétiennes, Seigneur, qui en effet sont imbibées, Seigneur, de l'esprit de ce monde, voire même de la pensée de Satan lui-même, qui ne veut que diviser, égorger, détruire. Seigneur, mais donne-nous la pensée de Christ qui s'est livré lui-même à la croix pour le salut du plus grand nombre. Seigneur, donne-nous de savoir, Seigneur, non pas regarder à nos principes et à nos idées, mais de savoir fixer nos regards sur toi, toi qui es pur, saint, juste, véritable. Seigneur, merci encore pour ta parole, qu'elle puisse continuer, Seigneur, à labourer nos cœurs, pour que la semence que tu mets, Seigneur, porte du fruit, et du fruit en abondance. À toi honneur et gloire, Père. Amen.